Un week-end de fête nationale se transforme en cauchemar lorsque plusieurs meurtres commis à des milliers de kilomètres de distance semblent être liés. Deux suspects traversent les États en laissant des victimes dans leur sillage. Les agents du FBI et les autorités s'engagent dans une course contre la montre pour mettre un terme à cette fuite meurtrière. Vous écoutez les dossiers du FBI. Homicide en série. Première partie.
Le 29 août 1994. L'été tirait à sa fin dans la petite ville de Port Washington, en Ohio, une localité agricole parsemée de fermes. Ruth Lauder, une veuve de 79 ans, vivait seule dans une de ses propriétés. Des membres de sa famille venaient régulièrement la voir, car elle était aux prises avec un cancer. C'est pourquoi elle ne s'inquiéta pas quand elle entendit des pas dans sa cuisine. Elle se dit qu'il devait s'agir de sa petite fille venue s'assurer que tout allait bien avant la nuit. Mais elle s'aperçut bientôt que des inconnus étaient entrés par effraction. Le lendemain matin, le bureau du shérif de Tuscarawas County reçut un appel d'urgence de la sœur de Ruth Lauder. Comme d'habitude, elle était allée chez la malade avec son gendre pour voir comment elle allait. Mais il n'y avait personne et l'auto de sa sœur avait disparu. C'est le shérif Walter Wilson, alors lieutenant détective, qui fut l'enquêteur en chef dans cette affaire.
Les proches de Mme Lauder étaient venus la voir lors de la soirée précédant sa disparition. Elle se portait bien à ce moment-là. On nous a dit qu'elle se remettait d'une chirurgie nécessitée pour son cancer et qu'elle devait absolument prendre des médicaments qui se trouvaient toujours dans sa maison.
La famille s'inquiétait de l'état de santé de Ruth Lauder. Elle était si faible que son état risquait d'empirer si elle ne pouvait prendre ses médicaments pendant un certain temps. Il y avait des marques sur la porte arrière et des dommages sur le chambranle qui montraient que quelqu'un avait enfoncé la porte pour entrer. À l'évidence, la vieille femme n'avait pas quitté sa maison de son plein gré. Son sac à main se trouvait d'ailleurs encore là, mais il ne contenait plus d'argent. Les clés de sa Buick rouge avaient également disparu. Le shérif Wilson fit immédiatement diffuser une description de la veuve et de sa voiture. Plus on agirait vite, plus grandes seraient les chances de retrouver Ruth Lauder en vie.
Très vite, on a eu le sentiment que Mme Lauder avait été enlevée. Nous avons immédiatement entamé d'importantes recherches pour la retrouver, elle et sa voiture. Les divers services de police de la région ont participé à l'opération, de même que le personnel du service des incendies. De plus, des habitants du secteur se sont regroupés pour fournir leur aide.
Inquiète du sort réservé à la veuve, la population avait décidé de s'unir pour tenter de la retrouver. On installa un poste de commandement dans la caserne de pompiers de Port Washington. Aidés par des bénévoles, les autorités établirent un plan de recherche pour retrouver la malade. Si elle ne pouvait pas avoir rapidement accès à ses médicaments, son état de santé s'aggraverait. Il fallait absolument la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Des unités de policiers à cheval se joignirent aux équipes de recherche pour fouiller les terrains plus accidentés. Pendant ce temps, la police locale et les voisins de Ruth Lauder ratissèrent les champs et les bois. Des policiers du bureau du shérif de la localité voisine emmenèrent leur unité canine avec eux, dans l'espoir que leur chien détecterait quelque chose. Les autorités responsables des autoroutes de l'Ohio demandèrent à leur patrouille aérienne d'examiner les routes du haut désert. Malheureusement, tout cela ne donna rien. On ne trouva aucune trace, ni d'elle, ni de la voiture. On recueillit des dons dans les restaurants et les épiceries pour financer le salaire du personnel additionnel. Le service de police alerta les médias pendant que les membres de la famille de la disparue posaient des affiches dans les villes voisines pour permettre à la nouvelle de se propager rapidement tout autour de Port Washington. Au cours de l'après-midi, une connaissance de Ruth Lauder appela le bureau du shérif en déclarant qu'elle croyait détenir des informations. Elle vint rencontrer les enquêteurs. Elle avait aperçu la Buick de Mme Lauder en ville vers 23 heures la veille. Elle avait d'ailleurs trouvé étrange que la femme en pleine convalescence soit sortie de chez elle aussi tard le soir. Bien qu'il fît nuit, elle avait cru voir un jeune homme au volant. L'informatrice fit de son mieux pour aider la police à dresser un portrait robot du conducteur à partir du peu qu'elle avait pu voir. Le lendemain, un agent introduisit toutes les données relatives à la disparition de Ruth Lauder dans le système du NCIC, la base de données criminelle nationale qui relie quelques 57 000 services de police à travers les États-Unis. Plus tard, le même jour, des parents inquiets appelèrent le poste de police. Leur adolescent de 16 ans avait également disparu. Ils appelaient de la localité voisine de Newcomerstown, à seulement 5 km de la ferme de Ruth Lauder. Le père, inquiet, déclara que son fils avait disparu. Personne de leur entourage n'avait eu de ses nouvelles depuis 3 jours. Il s'était aussi rendu compte que son pistolet de calibre 22 n'était plus dans la maison. Le père et la belle-mère d'Eric Elliott remirent sa photo à la police.
C'était une étrange coïncidence qu'au moment même de la disparition de Mme Lauder,
Sheriff Walter Wilson,
un adolescent qui vivait aussi près de chez elle, est également disparu.
Les enquêteurs de l'Ohio en étaient à se demander s'il n'y avait pas de lien entre les deux affaires. Puis, seulement 36 heures après l'enlèvement de Mme Lauder, le shérif Wilson reçut un autre appel. À Fulton, au Missouri, soit à plus de 1000 km à l'ouest, des policiers avaient trouvé la Buick rouge embourbée dans un champ. En vérifiant la plaque d'immatriculation, ils avaient constaté qu'il s'agissait de la voiture de Mme Lauder. Le fermier à qui appartenait le champ n'avait pas vu qui avait abandonné le véhicule. Il n'y avait pas de clé, mais les portes étaient déverrouillées. Parmi les effets à l'intérieur se trouvait une bouteille de boisson gazeuse et l'emballage plastique d'un sandwich sur lequel se trouvait l'étiquette d'une épicerie appelée Goshen. Les policiers firent remorquer le véhicule au poste pour pouvoir l'examiner à fond. Le lieutenant Timothy Daimler, du bureau du shérif de Callaway County à Fulton, au Missouri, fut chargé de cette enquête. La première tâche de son équipe fut de vérifier le contenu du coffre arrière, fermé à clé.
Nous ne savions pas ce que nous allions y découvrir. Cette femme de l'Ohio avait disparu et nous avions retrouvé son auto. Il était donc possible que son cadavre soit à l'intérieur.
Les enquêteurs devaient l'ouvrir sans détruire d'indices, ni risquer de blesser la femme qui pouvait y être enfermée, inconsciente. On fit appel à un serrurier du service de la police. Le coffre était vide. Après 3 jours de recherche, les chances de retrouver Ruth Lauder en vie étaient de plus en plus minces. Le shérif Wilson se préparait à se rendre au Missouri quand il eut l'idée d'apporter avec lui une photo d'Eric Elliott, l'adolescent disparu.
Il n'y avait alors aucun lien concret entre la disparition de Mme Lauder et celle du jeune Eric Elliott. Mais je me suis dit que si j'allais à Callaway County, ce serait une bonne idée d'apporter sa photo.
Le gendre de Ruth Lauder offrit alors d'accompagner le shérif. Le représentant du Missouri auquel le shérif s'adressa ne reconnut pas l'adolescent sur la photo, mais le shérif, lui, reconnut immédiatement l'emballage plastique du sandwich. Il provenait de l'épicerie Goshen, un commerce situé près de la maison de Ruth Lauder. Son gendre leur dit alors que ses proches ne laissaient jamais rien traîner dans le véhicule. Peut-être était-ce Eric Elliott, qui vivait également non loin de cette épicerie, qui avait laissé cet emballage.
Comme ils avaient apporté une photo d'Elliott,
Lieutenant Timothy Daimler.
Nous avons décidé de nous occuper de Kingdom City, où Elliot se serait forcément arrêté en quittant l'autoroute.
Les enquêteurs de l'Ohio et du Missouri se rendirent dans tous les commerces près de l'autoroute 70, l'autoroute Est-Ouest la plus importante de la région. Peut-être quelqu'un pourrait-il confirmer qu'Elliot s'était bien trouvé dans le secteur. Ils interrogèrent des dizaines d'employés et de voyageurs. Plus tard, au cours de l'après-midi, leurs efforts portèrent fruit. Quelqu'un se rappelait avoir aperçu l'adolescent la journée précédente. Malheureusement, personne n'avait vu Russ Loader à bord de la voiture. Maintenant, les enquêteurs n'avaient plus d'autre choix que de faire du jeune homme de 16 ans un suspect. Avec quelques collègues, un policier interrogea des dizaines de voisins, mais aucun d'eux n'avait vu Eric Elliott ni Ruth Loader.
Je rentrais chez moi après le travail quand j'ai reçu un message du centre de traitement de l'information. On voulait que je les rappelle immédiatement. On m'a alors annoncé qu'on avait trouvé deux cadavres dans une ferme sur la route 147.
C'était la propriété de William et Flossie Brewer, la maison à côté du champ où la Buick avait été retrouvée plus tôt le même jour. On pouvait en déduire que les deux crimes étaient reliés. Trois jours après la disparition de Ruth Loader, les détectives avaient découvert les corps de William Brewer, 86 ans, et de sa femme Flossie, 76 ans, dans le sous-sol de leur maison. Ils avaient été abattus de plusieurs coups de feu.
Les deux corps s'étaient affaissés près de la porte. On avait d'abord ligoté les mains de la femme derrière le dos avec ce qui semblait être un fil de téléphone. Quant à l'homme, il gisait à la droite de sa femme, sa canne appuyée au mur à côté de lui.
Le détective trouva aussi le chien du couple qui gardait fidèlement leur corps inerte. Une autopsie révéla que M. et Mme Brewer avaient tous deux reçu trois projectiles de calibre 22 à la tête, soit le calibre de l'arme disparue de la maison d'Eric Elliott. Le présumé kidnappeur de Ruth Loader était maintenant un suspect dans ce double homicide.
Rien dans la maison n'indiquait que le suspect y était resté longtemps. Les indices laissaient présumer que tout s'était passé relativement vite.
Les enquêteurs ne trouvèrent aucune trace d'entrée par effraction. Dans le sous-sol, la porte qui menait à l'extérieur était couverte de toiles d'araignée, ce qui laissait présumer qu'elle n'avait pas été ouverte depuis longtemps. Les enquêteurs interrogèrent le fils des Brewer. Celui-ci s'était aperçu qu'en plus de l'Oldsmobile de ses parents, plusieurs fusils avaient disparu. On introduisit toutes ces informations dans le système du NCIC. L'homme ajouta que le couvre-lit de ses parents avait également disparu. Des techniciens examinèrent la scène jusqu'à 5 heures du matin. Sur le sol, près de la porte d'entrée, ils remarquèrent deux traces de pas distinctes qui n'avaient pas été faites par les occupants de la maison. L'une de ces empreintes venait d'une chaussure de course et l'autre d'une botte de randonnée. Il semblait donc y avoir un lien entre le double homicide et la disparition de Ruth Loader. Mais les enquêteurs ignoraient toujours si Eric Elliott et son complice étaient devenus des tueurs en série. Le 2 septembre 1994, 4 jours et demi s'étaient écoulés depuis qu'on avait forcé Ruth Loader à quitter sa maison de l'Ohio sans ses médicaments. On la croyait morte depuis qu'on avait retrouvé sa voiture abandonnée au Missouri, à 150 mètres de la propriété d'un couple de gens âgés, abattus de plusieurs coups de feu. Même s'il manquait toujours de preuves, les autorités croyaient le jeune Eric Elliott ainsi qu'au moins un complice responsable de ces crimes. Le lieutenant Timothy Daimler du bureau du shérif de Calloway County au Missouri se souvient de l'état de choc des habitants de la région.
Ces gens vivent dans un secteur rural. Ils ne verrouillent jamais leurs portes. Ils se connaissent tous. Je crois qu'ils se sont rendus compte que même quand on vit dans un milieu rural, il vaut mieux verrouiller ses portes et demeurer vigilant quand des inconnus rôdent dans les parages.
Ces deux homicides et un troisième présumé meurtre en autant de jours forcèrent les autorités à se tourner vers le FBI pour obtenir de l'aide. L'agent spécial Peter Crist du bureau du FBI de Canton en Ohio fut assigné à l'affaire. Pour attraper le présumé tueur et son complice, on devait d'abord tenter de savoir quelle direction Elliot avait prise.
Nous essayons d'obtenir le plus d'informations possibles sur le suspect. Nous avons tenté de trouver des oncles, des tantes, des cousins, des amis. Lui et son complice semblaient vouloir traverser le pays. Il nous fallait connaître toutes les personnes chez qui il voudrait s'arrêter, soit pour les saluer en passant, soit pour leur demander de l'aide, financière ou morale.
Les agents convoquèrent un ami d'Eric Elliott à un interrogatoire. Il leur apprit qu'Eric fréquentait depuis peu un ex-prisonnier du nom de Louis Gilbert. Gilbert et Elliot avaient passé beaucoup de temps ensemble au cours des dernières semaines. Tous deux ne se gênaient pas pour dire combien ils trouvaient la vie de cette petite localité ennuyante et qu'ils n'allaient pas tarder à prendre le large. Gilbert avait laissé derrière lui sa femme et son fils. Quant à Elliot, il voulait aller en Californie pour rendre visite à sa mère biologique. Au cours de l'interrogatoire, l'ami ajouta que les deux jeunes hommes voulaient devenir célèbres et qu'ils avaient décidé de commencer par voler une voiture pour faire parler d'eux. La dernière fois qu'il les avait vus, c'était 5 jours plus tôt. Ils marchaient le long de la voie ferrée derrière la maison de Ruth Loader. Elliot était un adolescent en difficulté et l'agent Crist croyait qu'il admirait sans doute Louis Gilbert, un peu plus vieux que lui, car celui-ci semblait faire tout ce qui lui plaisait.
Quand Gilbert est devenu l'ami d'Eliot, il n'était sorti de prison que depuis 2 semaines.
Agent spécial Peter Crist.
Il avait des antécédents criminels. Nous avons alors cru qu'Eliot était peut-être en admiration ou alors qu'il s'était entiché de Gilbert à cause de ce passé criminel.
Les enquêteurs fouillèrent encore davantage le passé de Louis Gilbert. Celui-ci avait été incarcéré après avoir volé un bateau et être entré par effraction dans une résidence. Il avait également été jugé coupable d'avoir battu son fils de 3 ans. Les agents n'avaient pas encore de preuves que Gilbert voyageait avec Elliot, mais si c'était le cas, ils devaient les retrouver au plus vite avant qu'il n'y ait d'autres meurtres.
Notre plus grande préoccupation à ce moment-là, c'était le fait que nous soupçonnions les deux hommes d'être responsables de la disparition de Mme Loader. Ils étaient également des suspects importants du double homicide au Missouri. Nous avions peur qu'ils remettent ça ailleurs au pays.
Le shérif Wilson commença par tenter de savoir si quelqu'un avait aperçu Gilbert et Elliot à l'épicerie Goshen, près de la maison de Ruth Loader. Les enquêteurs du Missouri avaient découvert un emballage plastique provenant de cette épicerie dans la voiture abandonnée de Ruth Loader.
Does this look familiar to you?
Yeah. One of our wrappers to our sandwich.
Okay, what would that be?
La caissière identifia sans mal l'emballage. Elle se rappelait avoir vendu un sandwich et une boisson gazeuse à Gilbert et Elliot peu après la disparition de Mme Loader. Ainsi donc, les deux jeunes hommes voyageaient ensemble. Mais 5 jours s'étaient déjà écoulés depuis le début de la série de meurtres et le temps pressait. Le FBI obtint rapidement des mandats d'arrêt pour enlèvement et vol relativement à la disparition de Ruth Loader et de sa voiture. Même s'il manquait de preuves pour passer aux accusations, les agents croyaient également les deux hommes responsables du double homicide au Missouri. Comme le temps était compté, ils essayèrent de déterminer où Gilbert et Elliot étaient les plus susceptibles de s'arrêter dans leur route vers l'ouest. Le 3 septembre, ils rendirent visite à la mère de Gilbert à Tahlequah en Oklahoma pour l'aviser que son fils et l'ami de celui-ci étaient des fugitifs armés. Ils voyageaient vraisemblablement à bord d'une Oldsmobile immatriculée au Missouri. Il était possible qu'ils s'arrêtent chez elle pour lui demander de l'aide. Malheureusement, c'était déjà trop tard. Gilbert et Elliot étaient arrivés la veille à 2h du matin. Gilbert avait dit à sa mère que l'Oldsmobile appartenait à l'un de ses amis. Les deux jeunes hommes lui avaient ensuite parlé de leur projet d'aller en Californie. Ils avaient passé une partie de la journée avec elle pour ne partir que quelques heures avant l'arrivée des agents. la mère de Gilbert décrivit les vêtements des deux complices et donna aux agents les adresses d'autres membres de la famille. Les autorités craignaient que les suspects ne tuent à nouveau s'ils ne les arrêtaient pas au plus vite.
C'était sûrement l'un des aspects les plus frustrants de toute l'enquête. Nous semblions toujours avoir une demi-journée ou un jour de retard sur eux. Nous n'arrivions jamais à les précéder dans leurs déplacements.
Comme Eric Elliott était encore un mineur, les enquêteurs durent demander à la cour la permission de distribuer sa photo. Ils en eurent l'autorisation 36 heures après le double homicide au Missouri. Le lieutenant Daimler l'ajouta au bulletin diffusé à la grandeur du pays.
J'avais peur d'apprendre qu'ils s'étaient arrêtés quelque part et qu'ils avaient encore tué. Je voulais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour mettre la population en garde, parce qu'il était évident, selon moi, qu'ils s'en prendraient au premier venu si ça leur chantait.
En dépit de tous les efforts des autorités, les recherches pour retrouver les présumés meurtriers avaient fini par remplir 6 longues journées. Le 4 septembre, à Oklahoma City, à plus de 250 km à l'ouest de la maison de la mère de Gilbert, un amateur de véhicules tout-terrain se promenait autour du lac Draper. Sa randonnée fut soudain interrompue par la découverte du corps d'une femme parmi les arbres. Pendant qu'il se rendait à toute vitesse alerter la police, il croisa une Oldsmobile immatriculée au Missouri, abandonnée sur la route. Près d'une semaine après l'enlèvement de Ruth Loader en Ohio, les recherches pour retrouver les deux présumés tueurs n'étaient pas encore terminées.
Vous venez d'écouter les dossiers du FBI. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Stéphane Cooper et Marc Marabella. Il a été réalisé par J. Darren Walls. Les dossiers du FBI est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures. Adapté de la série documentaire audiovisuelle FBI Files, produit par New Dominion Pictures. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Kosiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun, assistée de Marie Agassin. Montage, Johanna Lalonde. Avec la voix d'Olivier Citruc.